Donc, tous les exemples de baptême que nous avons vus dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, disons d'une manière générale, montrent d'une manière absolument indiscutable qu'il n'y a aucune trace du baptême des enfants dans la Bible. Ce que les tenants, n'est-ce pas, du baptême des enfants reconnaissent. Et comme nous l'avons vu, ils sont obligés de faire appel à des arguments a silencio pour justifier le baptême des enfants, notamment les trois textes où il est question, n'est-ce pas, de Lydie, du geôlier de Philippe et des Corinthiens que Paul avait baptisés, n'est-ce pas, qui avait été, nous est-il dit, avec toute leur maison. Mais leur maison, c'est un terme vague. Au moins dans le cas du geôlier, il nous est dit que c'était des gens qui se sont tous réjouis. Donc c'est qu'ils étaient en âge de se réjouir. Et s'ils étaient en âge de se réjouir, ils étaient donc aussi en âge de croire. Donc ce serait plutôt un argument en faveur du baptême des adultes dans ce cas-là. Bon, pour les deux autres cas, cela ne nous est pas dit d'une manière aussi explicite, mais maison, ça peut être non seulement famille, ça peut être aussi la maisonnée au sens des domestiques, si vous voulez, des esclaves éventuels, n'est-ce pas, que ces gens-là pouvaient avoir. Lydie semble avoir été une personne d'âge, puisqu'elle était à la tête d'une entreprise, ce qui semble avoir eu une certaine importance. On peut imaginer aussi que si enfants elle avait, ce devait être des enfants qui aussi devaient avoir un certain âge. Bon, la maison de Stéphanas, dont il est question à Corinthe dans le premier chapitre, la première épître aux Corinthiens, serait le seul, n'est-ce pas, sur lequel pourrait éventuellement subsister un doute un peu plus fort. Seulement, tous les dogmaticiens diront qu'il est extrêmement hasardeux, extrêmement dangereux de construire une doctrine sur un argument a silencio. Et c'est pourquoi les pédobaptistes, ça veut dire les partisans du baptême des enfants, ont pratiquement renoncé à établir la pratique du baptême des enfants sur l'Écriture. Bien sûr, ils prendront un certain nombre de textes, tels par exemple le texte où Jésus dit aux disciples « Laissez venir à moi les petits-enfants, ils n'en empêchaient pas ». Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand exégète pour se rendre compte que ce texte n'a strictement rien à voir avec le baptême. Il s'agissait d'une bénédiction de Jésus qui prenait les enfants dans ses bras, mais il n'était pas du tout question de baptême, bien évidemment. C'est pas... Même chose, des textes où il est question de devenir comme un enfant, ce qui ne viendra pas comme un enfant, n'entrera pas dans le royaume des cieux, etc. Bon. Ce sont des textes que les partisans du baptême des enfants emploient, mais évidemment dont on se rend bien compte qu'ils n'ont rien à voir dans le contexte avec le baptême. Donc, je disais, les partisans du baptême des enfants ont quasiment renoncé à établir la pratique du baptême des enfants sur l'Écriture. Alors, que reste-t-il s'il n'y a plus l'Écriture ? Eh bien, il y a la tradition. Et un document récent de la Fédération protestante de France sur le baptême reconnaissait, n'est-ce pas, que la pratique du baptême des enfants ne pouvait que s'établir sur la base de la tradition, d'une tradition vénérable, n'est-ce pas, tellement vénérable qu'on ne pouvait pas l'ignorer, disait-il, et que c'était donc logique, aujourd'hui, partant de cette vieille tradition qui était commune à toutes les églises historiques, n'est-ce pas, de baptiser les enfants. Et on aurait eu beau jeu de rétorquer à ce document, n'est-ce pas, qu'il est en contradiction flagrante avec le principe même de la réforme, n'est-ce pas, la sola scriptura, l'écriture seule, d'où le protestantisme prétend tirer sa doctrine, et que c'est là, évidemment, à partir du moment où on reconnaît qu'il s'agit d'une doctrine essentielle, car le baptême est une doctrine essentielle, qui n'est pas basée sur la sola scriptura, sur l'écriture seule, mais sur la tradition, n'est-ce pas. C'est une entorse grave au principe fondamental de la réforme. Et si on fait une entorse sur ce point-là, pourquoi ne ferait-on pas une entorse sur les autres points ? Alors, cette tradition d'où remonte-t-elle ? Eh bien, il est certain que cette tradition est venue assez vite. Dans la Didaché, par exemple, la Didaché des douze apôtres, au deuxième siècle après Jésus-Christ, il y a un texte qui dit ceci, en gros, je ne sais plus les mots exacts, mais ça vous a pensé. Pour ce qui est du baptême, après les avoir instruits, n'est-ce pas, donc celui qui croira qu'il sera baptisé, c'est donc la pratique normale du baptême, plongez-les trois fois dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, certains d'ailleurs, partant de cela, par exemple, les églises dites nazaréennes, qui sont des églises de type baptiste, mais enfin qui s'appellent nazaréennes, n'est-ce pas, baptisent de cette manière-là, trois fois le néophyte plongé dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne semble pas que c'était ainsi que ça se pratiquait dans les premiers siècles. Bon, déjà là, une petite entorse. Donc, plongez-les trois fois dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il n'y a pas d'eau en quantité suffisante, et notamment si ce sont des malades qui ne peuvent pas être plongés dans l'eau, versez de l'eau sur leur tête en prononçant la formule « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc déjà ici, nous voyons le baptême par aspersion pratiqué dès le IIe siècle, mais pour des empêchements de force majeure quand il n'y a pas suffisamment d'eau pour baptiser. Bon, c'est déjà très discutable. Mais finalement, de ce qui était une exception dans l'Église du IIe siècle, ou à partir du Ve siècle, on en fait la règle. Dans l'Église, en tout cas, d'Occident. Car l'Église d'Orient, c'est-à-dire l'Église orthodoxe, continuera à baptiser les bébés par immersion, jusqu'à ce jour, en les plongeant d'ailleurs trois fois dans l'eau. Là aussi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme on voit dans la Didaché. Et puis, petit à petit, on se rend compte, n'est-ce pas, qu'on arrive à une vision sacramentaire de la notion du baptême, ça veut dire dans une notion quasi magique. Et c'est ainsi, par exemple, que la Didaché conseille de conférer le baptême de cette manière-là aux mourants. Ça veut dire à des gens, n'est-ce pas, qui sont quasi dans l'impossibilité de faire une profession de foi claire et nette. Et à partir du IIe siècle, notamment, ce sera la coutume dans, en particulier, l'aristocratie, d'attendre d'être in articulo morte pour recevoir le baptême. Par exemple, l'empereur Constantin le Grand, l'empereur que l'on dit être chrétien, a attendu d'être sur son lit de mort pour être baptisé. N'est-ce pas ? Donc, à partir du moment où on attend le dernier moment pour être baptisé, c'est qu'on attend du baptême quelque chose qui est une vertu quasi magique. Attendu qu'on est sur son lit de mort, c'est difficile d'aller vous plonger dans l'eau. Donc automatiquement, c'est le baptême par aspersion. Et en même temps, n'est-ce pas, c'est le baptême sacramentaire. C'est en quelque sorte le viatique pour pouvoir passer dans l'au-delà, l'âme en paix, si j'ose dire. Et alors, à partir du moment où on a la théologie, n'est-ce pas, du péché originel tel qu'il est élaboré dans l'Église catholique, savoir que l'enfant, comme on l'a vu la dernière fois, naît pécheur, eh bien, il est normal aussi qu'en danger de mort, alors il ne faut pas oublier aussi que à l'époque de l'Église primitive, c'est-à-dire la 2e, 3e, 4e, 5e siècle, n'est-ce pas, la mortalité infantile était effrayante. Et que un enfant, à sa naissance, était en danger de mort jusqu'à l'âge de 1 ou 2 ans. Et par conséquent, pour éviter qu'il n'aille, non pas en enfer, comme nous l'avons vu, mais dans les limbes, eh bien, il fallait le baptiser, donc, le plus tôt possible. À partir du moment où on attribue, n'est-ce pas, au baptême une vertu magique que l'on accorde aux mourants, eh bien, automatiquement, on est amené tout naturellement à le conférer aux jeunes enfants qui, eux aussi, au moment de la naissance et pendant les quelques mois qui suivent la naissance, sont en danger de mort permanent. C'est finalement la même démarche. La même démarche. Et c'est ainsi que le baptême des enfants trouve droit de cité, donc, dans l'Église à partir du 5e siècle. Il devient la norme. Si vous voulez, à partir du 2e siècle, 3e siècle, on trouve déjà les premières traces du baptême d'enfants, un petit peu comme des exceptions. Et puis, il y a un autre texte aussi qui va justifier cela. C'est dans l'Épître aux Corinthiens, vous savez, quand Paul, au chapitre 6, parle aux époux. Hein, il dit, si une sœur a un mari non-croyant et qu'il accepte d'habiter avec elle, que la femme ne répudie pas son mari, n'est-ce pas ? Car si vous êtes ensemble, vos enfants seront saints. Les enfants sont sanctifiés, comme l'époux d'ailleurs, un croyant est sanctifié par la femme croyante. Bon. Alors c'est un texte un peu mystérieux que celui-là, son saint. Je pense que l'explication est d'ailleurs assez facile. Ça veut dire que les enfants sont au bénéfice de la foi des parents, notamment dans la perspective éventuelle de l'enlèvement d'Église, aussi longtemps qu'ils ne sont pas capables de prendre une décision par eux-mêmes. Les enfants sont saints, dans ce sens-là. Entre parenthèses, affirmation qui démolit la doctrine du péché originel dans le sens que lui donnent les catholiques. Hein, les enfants sont saints. Bon. Donc, puisqu'ils sont saints, pourquoi ne pas en tirer les conséquences et les baptiser ? Mais encore une fois, la sainteté des enfants ne joue que... précisément parce qu'ils ne sont pas capables de prendre des décisions par eux-mêmes. À partir du moment où ils sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes, leur sainteté dépend justement de leurs décisions. Donc automatiquement, ici, le texte de l'Écriture ne joue plus. Et les baptiser sur la seule base, n'est-ce pas, de ce verset, il est évident que c'est quelque chose qui est extrêmement ténu. Il est intéressant de noter que le professeur Oscar Kuhlmann, qui est un pédobaptiste convaincu, affirme que la séquence normale dans l'Église primitive, c'était prédication d'Évangile, foi et ensuite baptême, et non pas l'inverse. Quant à Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui, il écrivait ceci, « Le baptême des adultes est le plus sûr en pratique. » C'est quand même fort. C'est quand même fort de trouver ça sous la plume de ce théologien si éminent. Et finalement de voir le peu de cas que l'Église catholique a fait du conseil de son théologien principal dans ce domaine précis. Mais il faut le dire que si ce n'était pas ainsi, si l'Église catholique, par exemple, pour ne parler que d'elle, revenez à la pratique généralisée du baptême des adultes, elle cesse d'être l'Église catholique. Ça veut dire qu'elle cesse d'être une Église de multitude, une Église constantinienne, dans laquelle on entre par la vertu de la naissance. Donc, si vous voulez, c'est se renier elle-même. Alors, bien entendu, aujourd'hui, l'Église catholique fait grand cas du fait qu'elle n'a jamais renoncé au baptême des adultes. C'est évident. Il est bien évident que l'Église catholique a toujours considéré que des païens qui se convertissaient devaient être baptisés même à l'âge adulte. Et on note aujourd'hui, par exemple, l'abbé Lemal le faisait dernièrement, quand nous étions dans une rencontre sur le baptême, il disait, mais il y a de plus en plus dans le diocèse, il y a de plus en plus de baptêmes d'adultes. Bien sûr, puisqu'il y a de moins en moins d'adultes, il y a de moins en moins d'enfants, je veux dire, qui sont catéchisés. Il y a bien de temps en temps, bien entendu, hein, qui revient à la foi catholique et puis qui donc, n'ayant pas été baptisé enfant, adulte. Mais si vous voulez, l'important de la chose, ce n'est pas que les églises historiques se mettent à pratiquer de plus en plus le baptême des adultes. C'est le cas aussi de l'Église réformée. La discipline de l'Église réformée permet maintenant aux parents de choisir le baptême de leur choix. Soit baptême des enfants, soit baptême des adultes, soit d'attendre de remettre le baptême jusqu'à l'âge adulte. Bon. Alors, vous voyez, il y a une évolution. Par exemple, les églises libres, les églises évangéliques libres, ont toujours eu, n'est-ce pas, ces deux options possibles, baptême des enfants ou baptême des adultes. Alors, on nous dit, mais voyez, nous reconnaissons la possibilité du baptême des adultes. Pourquoi vous aussi ne reconnaissez-vous pas la possibilité du baptême des enfants ? Or, c'est là qu'est le problème, justement. Que les églises historiques reconnaissent le baptême des enfants, le baptême des adultes, ça n'a rien de nouveau, ça a toujours été. Ça a tellement été que même les théologiens de ces églises-là reconnaissent que dans l'Église primitive, c'était le baptême des adultes qui était normatif. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'à partir du moment où l'on admet la possibilité du baptême des enfants, on nie la nécessité de la conversion. Là est le point essentiel. Si un enfant peut être chrétien, un bébé peut devenir chrétien, ça veut dire que l'on peut être chrétien sans être authentiquement et véritablement converti. Et c'est la porte ouverte à toutes les déviations. Car la conversion est la pierre de touche de l'évangile véritable, donc de la véritable Église. Une Église qui ne prêche pas la conversion est une Église dont l'ecclésialité est très réduite. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des gens qui soient authentiquement convertis en son sein. À partir du moment où la conversion n'est pas prêchée, ça veut dire que le nombre, la proportion de ceux qui seront réellement et authentiquement convertis sera extrêmement réduite. À l'inverse, une église dans laquelle on prêche la conversion ne sera pas obligatoirement une église dans laquelle 100% des membres sont convertis. Il pourra y avoir, comme il y avait l'église de Jérusalem, des Ananias, des Saphira, des Simon le magicien, des gens qui ont fait profession de se convertir sans le faire vraiment, mais la proportion sera inversée. Ça veut dire que la proportion des non-convertis sera infiniment moindre que la proportion des gens véritablement et authentiquement convertis. Et c'est pourquoi je reviens à ce que je disais la dernière fois, le baptême des adultes est la pierre de touche de, je dirais, la foi véritable. Car admettre à côté du baptême des adultes la possibilité du baptême des enfants, reconnaître comme baptême authentiquement valable le baptême des enfants, eh bien, c'est ouvrir la porte, qu'on le veuille ou non, à la notion d'église de multitude dans laquelle on entre par la naissance, par l'éducation, par l'adhésion, bref, par une multitude de démarches qui n'ont rien à voir avec la conversion. Donc, c'est l'autodestruction de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle, dans le débat actuel sur le baptême qui découle du BEM, car le BEM, le document de l'IMA, baptême, eucharistie, ministère, faisait comme exigence préalable aux relations œcuméniques la reconnaissance mutuelle des baptêmes. Et alors, pour nous, ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas reconnaître comme baptême le baptême des enfants en rien. Parce que là, nous nous autodétruisons. À terme, nous autodétruisons. Et les baptistes, les quelques baptistes, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, qui ont admis l'authenticité du baptême des enfants et accepté la reconnaissance mutuelle des baptêmes, eh bien, sont sur une voie extrêmement dangereuse. Ça veut dire que dans un temps, eh bien, ils seront une église de multitude comme les autres. C'est une question de temps. Car au début, quand nous voyons l'évolution, l'église primitive était entièrement baptiste. Et à partir du moment où on a admis, dès le IIe siècle, nous l'avons vu, des exceptions à cette règle, on a admis le baptême des mourants, puis ensuite le baptême des enfants, eh bien, en l'espace de quelques générations, on est passé d'une église baptiste à une église pédobaptiste. On est passé d'une église de professants à une église de multitudes. Et les mêmes causes auront évidemment les mêmes conséquences. Aujourd'hui, on demande aux églises baptistes et églises de professants de reconnaître la validité du baptême des enfants, pratiqué chez les autres. C'est-à-dire, on ne nous demande même pas de le pratiquer chez nous. Mais on nous demande de reconnaître que chez les autres, ceux qui ont été baptisés enfants, leur baptême est valable. Et voyez-vous, Dans une vision à courte vue, on peut dire, mais ça n'implique pas grand-chose. Si, ça implique énormément. Car il suffira maintenant de quelques personnes qui viennent, par exemple, d'une église réformée ou d'une église, anglicane ou autre, par exemple, les anglicans qui viendraient ici, en Bretagne. Il n'y a pas d'anglicans à Vannes. Bon, ils ont le choix, l'église réformée, l'église catholique ou nous. Ils viennent au milieu de nous, ils nous disent, voilà, nous, on est des anglicans, mais comme il n'y a pas d'église anglicane ici en Bretagne, à Vannes, on a fait le tour des églises de Vannes, on a pensé que votre église était celle qui nous convenait le mieux. Est-ce qu'on pourrait être reçu comme membre? Alors, nous avons été baptisés enfants en tant qu'anglicans, mais enfin, nous vous demandons, au nom de l'œcuménisme, du BEM, etc., de nous reconnaître comme membres à part entière. Si nous disons oui, quelle garantie avons-nous que ces gens sont véritablement convertis? Et même s'ils sont véritablement convertis. Alors, demain, ce seront des réformés qui viendront et qui feront la même démarche. Et puis ensuite, ce seront des catholiques, des orthodoxes, des libristes. Et puis au bout d'un temps, nous serons une église mixte dans laquelle il y aura des gens qui ont été baptisés enfants et des gens qui ont été baptisés adultes. Et puis bien entendu, comme dans l'église primitive, au bout d'un temps, ce sera le baptême des enfants qui prendra le dessus automatiquement. Ça, c'est le processus inévitable. C'est le processus inévitable. C'est pourquoi il faut mettre la barrière dès le départ. Et alors, n'est-ce pas, ça paraît évidemment pour les autres extrêmement intolérant. Et je me souviens du père Lemarque qui disait, alors vous ne reconnaissez pas comme chrétien. Si, éventuellement. Si vous êtes véritablement converti, vous pouvez être considéré comme chrétien. Mais pour être membre de notre Église, c'est autre chose. Pour être membre de notre Église, vous devrez être baptisé. Je me souviens de ce que Jacques Maury disait à mon oncle, André Taubois, disant, mais alors si je viens chez toi, moi qui suis baptisé enfant, tu ne vas pas me donner à Sainte-Seine? Si, je donnerai à Sainte-Seine, mais pas comme membre de l'Église, comme visiteur. Et si alors si je veux devenir membre de ton Église, tu me demanderas d'être baptisé? Alors mon oncle s'en est tiré par une pirouette, mais la réponse est oui. Eh oui. Nous n'exigeons pas des autres qu'ils soient baptisés par immersion. Nous pouvons éventuellement reconnaître qu'un certain nombre d'entre eux puissent être des chrétiens authentiques si vraiment ils ont fait une rencontre avec le Seigneur, mais leur baptême n'est pas un baptême. Et elle me disait, mais alors, mes parents, ils m'ont fait baptiser, c'était des croyants, n'est-ce pas? Ils avaient vraiment l'impression de faire une démarche, ils ont cru vraiment qu'il y avait une bénédiction de Dieu qui descendait sur moi. D'ailleurs, je suis devenu pasteur, etc. Bon, je dis, mais c'est tout à fait possible, je ne dis pas. Effectivement, si tes parents ont fait une démarche de foi dans ce domaine-là, Dieu a répondu à leur démarche et a béni cet enfant. Mais dans ce cas, je dis que ce que toi, tu appelles un baptême, moi, je l'appelle une présentation d'enfant. Mais pas un baptême. Ça n'est pas un baptême. C'est une démarche de foi à laquelle Dieu répond, mais ça n'est pas un baptême, bibliquement parlant. Alors, je crois qu'il faut que nous soyons extrêmement fermes sur ce plan-là. Maintenant, il faut dire une chose aussi très intéressante. C'est que les réformateurs étaient bien conscients aussi de ce problème, Luther notamment. Et un temps, Luther a été tenté de revenir au baptême des adultes, puis il a renoncé à cause de ses liens avec les princes, mais il a précisé que le maintien du baptême des enfants était quelque chose de provisoire dans l'Église évangélique luthérienne. Bon, quand on lit les pères de l'Église, par exemple, on note aussi que les pères de l'Église étaient à l'unanimité en faveur du baptême des adultes. Ça, il n'y a aucun doute. Les pères de l'Église affirmaient qu'il faut être pleinement conscient au moment du baptême. Ce n'est qu'avec Constantin que le baptême des enfants triomphe définitivement, et on comprend pourquoi. Parce que Constantin, qui cherchait à faire coïncider l'Église, la société religieuse, si vous voulez, avec la société civile, y a vu dans le baptême des enfants un moyen commode d'embrigader dans l'Église, donc dans l'Empire, tous ceux qui naissaient dans les limites de l'Empire romain. Et le baptême des enfants est indissolublement lié avec le système constantinien auquel les grandes églises historiques sont attachées jusqu'à nos jours. L'Église catholique, ça va sans dire. L'Église orthodoxe aussi. L'Église anglicane. Et puis finalement, les églises réformées luthériennes, donc issues de la réforme, qui, pour des raisons aussi de constantinisme, car finalement, les liens de Luther avec les princes étaient une forme de constantinisme, eh bien, ont préféré le baptême des enfants, tout en étant conscients que c'était une anomalie. Mais que, vu les circonstances dans lesquelles ils étaient plongés, eh bien, ils étaient obligés de s'en tenir là. Intéressant de noter aussi que les réveils qui sont nés dans l'Église médiévale ont presque tous remis en question le baptême des enfants. Prenons par exemple les Pauliciens et les Vaudois dont nous avons parlé en histoire de l'Église en son temps, mais c'est déjà loin, bien entendu, pour plusieurs d'entre vous. Eh bien, voici ce qu'ils écrivaient. « Notre Seigneur demande d'abord la foi, après quoi vient le baptême. » Les montanistes aussi avaient la même démarche, au IIe siècle après Jésus-Christ. En 1525, on note un sermon de Luther qui attaque violemment le baptême des enfants. Et voici ce que dit Luther dans son sermon. « Les jeunes enfants n'entendent ni ne comprennent la parole de Dieu. Ils ne peuvent donc avoir la foi. » Et là, Luther était parfaitement conséquent avec son système, n'est-ce pas, sa découverte, n'est-ce pas, de la justification par la foi. Alors, les catholiques qui ne sont pas à court d'idées, qui ont l'imagination fertile, ont trouvé une parade à cette affirmation, reprise d'ailleurs par les églises historiques dans leur ensemble. Ils disent, le baptisé, l'enfant qui est baptisé, c'est vrai, il n'a pas la foi. Mais il est baptisé dans la foi de l'Église. Hein ? C'est l'Église, en quelque sorte, qui a la foi pour lui. Et cette réponse de la foi que l'enfant ne peut pas donner, c'est le parrain et la marraine qui vont la donner pour lui. Bon, laissez-moi rire en breton, n'est-ce pas ? Parce que quand même, quand on voit comment se font les baptêmes aujourd'hui, comment on choisit les parrains et les marraines, dont certains, n'est-ce pas, ont une foi sur laquelle on peut mettre un grand point d'interrogation. Alors, vous voyez ce que ça peut donner. Pauvre enfant, n'est-ce pas, dont la foi est confessée par des gens comme ça. C'est quelque chose de sociologique, c'est quelque chose de mondain, et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec une véritable et authentique démarche spirituelle. Luther écrivait ceci. Il ne faut pas administrer le baptême à quelqu'un qui ne croit pas. Car le baptême des enfants sous prétexte de foi ne vaut rien. C'est Luther qui disait ça. Bon, après, il a viré de bord, pour les raisons que je disais, n'est-ce pas ? En 1526, l'année suivante, après ce fameux sermon, il propose d'organiser des petits conventicules et des espèces de petites réunions particulière, secrète, etc., pour baptiser par immersion quand viendront des jours meilleurs. Donc, c'était pour lui, c'est clair, que quand il tolère le baptême des enfants, c'est une tolérance. C'est une tolérance en attendant des jours meilleurs. Et puis, né évidemment, dans le même temps, à Zurich en particulier, nous avons vu ça en histoire de l'Église, la branche anabaptiste de la Réforme. Les premiers réformés qui se sont groupés autour de Zwingli à Zurich, n'est-ce pas, nient la valeur du baptême des enfants. Et alors a lieu la fameuse disputation de Zurich, disputation publique, où les échevins de la ville de Zurich sont amenés à trancher. Et ils vont trancher non pas pour des raisons théologiques, bibliques, mais pour des raisons politiques. Ils se sont bien rendus compte que si on donne droit aux exigences des anabaptistes et qu'on ne donne le baptême qu'à des adultes qui confessent la foi, alors il y a un découplage entre l'Église et la société civile. Découplage obligatoire. Et que par conséquent, on peut très bien se trouver avec des gens qui, dans la ville de Zurich, seront catholiques. Et ça va remettre en question l'équilibre politique de la cité. Et on déclare donc que les anabaptistes, comme on commence à les appeler alors, sont hérétiques. Ils sont bannis de la ville de Zurich. Et même, on en récupère quelques-uns qu'on laisse avec une grosse pierre au cou et qu'on envoie se noyer dans le lac de Zurich. Enfin, c'était la manière de faire des réformés de cette époque-là. J'ai rappelé ça au docteur Le Tournel il y a quelque temps. Ça lui a un petit peu coupé son élan. Hein. Bon. Alors, ensuite, n'est-ce pas, nous savons qu'il y a un courant anabaptiste illuministe à Münster en particulier, qui va discréditer l'anabaptisme. Et Luther sera amené à prendre violemment parti contre les illuministes, au moment de la fameuse guerre des paysans notamment. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Luther donc va rejeter le baptême des adultes. Et il va revenir au baptême des enfants. Étant tout entier, d'un homme tout d'une pièce, nous l'avons vu, Luther, n'est-ce pas, eh bien, il va donc jeter, si j'ose dire, le bébé avec l'eau du bain, hein, et revenir fermement au baptême des enfants. Jusqu'à ce jour, l'Église luthérienne, eh bien, pour le baptême des enfants. Alors, pour justifier le baptême des enfants, qu'il avait pourtant si brillamment dénoncé en 1525, comment Luther va-t-il s'y prendre ? Oh, c'est toujours des acrobaties théologiques. Il suppose une foi infuse, répandue naturellement dans l'âme de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant, c'est un petit peu presque comme les musulmans, si vous voulez. Les musulmans supposent qu'un enfant livré à lui-même, s'il n'était pas contrarié par ses parents, deviendrait naturellement musulman. Et Luther aussi suppose que l'enfant a naturellement la foi et que si on ne le contrariait pas, eh bien, il s'ouvrirait naturellement aux choses de Dieu. Bon, c'est une ineptie, c'est une ânerie sans nom, ça va de soi, n'est-ce pas ? C'est même la négation presque de son système pour lequel l'homme est pécheur dès sa jeunesse, et qu'il y a une mauvaise tendance qui va l'entraîner loin des choses de Dieu si la grâce de Dieu n'intervient pas et si l'Évangile ne lui est pas prêché. Mais que voulez-vous, quand on veut absolument maintenir une doctrine non biblique, on est bien obligé de faire un peu violence parfois à ses propres idées, et c'est ce que fait Luther. Il est en contradiction avec lui-même. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui Rome insiste tellement sur la reconnaissance mutuelle des baptêmes. Car si nous reconnaissons valide le baptême catholique, alors nous reconnaissons que nous sommes implicitement des frères séparés, comme ils le disent. Ça veut dire des frères qu'il faut ramener. Hein ? Et ça, nous avons vu que c'était le cas au XVIIe siècle aussi, nous avons vu ça en histoire de l'Église. Et c'était précisément cette reconnaissance des baptêmes qui faisait que les catholiques se sentaient libres de contraindre les réformés à revenir dans le giron de leur Église catholique, au gros de l'arbre, comme disait le roi Louis XIV, au besoin, par les potences, par les galères, par les prisons, par les enlèvements d'enfants et autres menus agréments, n'est-ce pas, dragonnades et autres, dont on réjouissait les réformés. Alors, c'est pourquoi, pour nous, maintenir le baptême des adultes est une question essentielle. Calvin, lui aussi, n'est-ce pas, était bien conscient qu'il y avait là un problème. Mais le souci de Calvin, dans la cité de Genève, qui était une cité qui avait un système constantinien, c'est évident, hein, Calvin recherchait avant tout la paix de l'Église, comme il le disait. Alors, il a gardé le baptême des enfants. Mais un des principes calvinistes essentiels était le fameux slogan « L'Ecclesia reformata semper reformanda », c'est-à-dire « L'Église réformée est toujours à réformer ». Et là, Calvin avait manifestement vu qu'il y avait quelque chose à revoir sur la question du baptême, que lui, pour des raisons politiques, pour des raisons diverses, n'est-ce pas, n'était pas à même de résoudre dans sa génération, mais il va de soi que Calvin souhaitait que la chose soit revue, évidemment, par les générations qui reviendraient ensuite. Si vous voulez, nous pouvons dire d'une manière claire que le baptême des enfants est une apostasie par rapport au christianisme primitif. Notons aussi que le grand théologien réformé contemporain, Karl Barth, était aussi contre le baptême des enfants. C'est évident. Et notamment dans le contexte actuel, n'est-ce pas, des droits de l'homme. C'est pas les droits de l'homme, c'est pas évidemment l'évangile, hein, bien sûr, mais quand même. Les théologiens modernes en ont profondément été imprégnés. Et si vous voulez, une conception de la liberté telle que les droits d'homme la conçoivent, et finalement telle que l'Évangile le conçoit, ça veut dire que nul ne peut être contraint, disent les droits de l'homme, en matière de foi, en matière religieuse. Karl Barth pose la question, il dit, mais est-ce que baptiser un enfant, donc faire de l'enfant un chrétien, sans lui demander son avis et pour cause, est-ce que ce n'est pas le contraindre en matière de foi ? Est-ce que ce n'est pas le contraindre en matière religieuse ? Alors on répondra, oui, mais il peut toujours renier son baptême dans l'avenir. N'empêche, dit Karl Barth. Il y a quand même là un non-respect de la personne humaine, et c'est au nom des droits de l'homme, c'est au nom du respect de la personne humaine plus que de la Bible, que Karl Barth met en question le baptême des enfants. Et entre parenthèses, vis-à-vis des humanistes qui sont si prompts dans le sillage de l'Église catholique, marqué qu'ils sont par elle, à nous traiter de secte parce que nous baptisons les adultes, c'est un argument aussi que nous pouvons faire valoir. Et nous respectons la liberté des gens, nous respectons la liberté des enfants, y compris nos propres enfants. Ce sont nos enfants qui, arrivés en âge de réfléchir, de choisir, eh bien choisiront eux-mêmes librement s'ils veulent être chrétiens ou pas. Et alors, à ce moment-là, ils pourront être baptisés ou pas, selon leur choix. Et c'est certain que là, Karl Barth avait quelque chose de tout à fait valable. Et Karl Barth avait un autre argument qui était un argument alors biblique, beaucoup plus biblique. Quand il parlait, il reprenait le texte de l'Évangile où Jésus, s'adressant aux pharisiens, disant que les publicains et les prostituées ont justifié le dessein de Dieu à leur égard en se faisant baptiser. Donc, disait Karl Barth, c'est une démarche qui manifestement est libre. Les pharisiens ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard parce qu'ils ne se sont pas fait baptiser, tandis que les publicains et les prostituées ont justifié Dieu en se faisant baptiser. Donc, automatiquement, dit Karl Barth, on voit que la démarche est véritablement une démarche libre. Alors, nous pourrions dire aussi que ce texte-là est un texte fondamental parce que nombreux sont ceux qui connaissent la volonté de Dieu aujourd'hui, mais ne s'y soumettent pas. Et ne s'y soumettent pas pour la même raison que les pharisiens qui connaissaient la volonté de Dieu dans ce domaine ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu parce qu'ils ont peur d'être exclus de la synagogue. Et je suis frappé de voir, n'est-ce pas, comment dans ce domaine, l'Église réformée a été intolérante jusqu'à une époque très récente. Et c'est ainsi que nombre de pasteurs ont été exclus de l'Église réformée, simplement parce qu'ils ont été baptisés par immersion. Ils ont été, comme ils disent, rebaptisés. En effet, pour l'Église réformée, encore une fois, le problème n'est pas baptême des adultes ou baptême des enfants. La discipline de l'Église réformée, je l'ai dit tout à l'heure, permet le choix des parents dans ce domaine. Ou les parents font baptiser leur enfant, bébé, ou bien ils attendent qu'il soit en âge de prendre une décision dans ce domaine. La discipline de l'Église réformée reconnaît la deuxième démarche comme une démarche possible. Mais ce que l'Église réformée condamne absolument, c'est que quelqu'un qui a été, entre guillemets, baptisé enfant, soit rebaptisé à l'âge adulte. Car alors, disent les réformés, on est en contradiction avec ce que Paul déclare, il y a un seul baptême. Donc on n'est baptisé qu'une seule fois. Il ne peut donc en aucune manière être question de rebaptiser quelqu'un, disent les réformés. L'argument mérite un examen. Il serait valable, partiellement du moins, si le baptême des enfants était un véritable baptême. Mais si nous posons, comme nous l'avons fait, que le baptême des enfants n'est pas un baptême, parce qu'il ne répond pas aux deux conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il y ait baptême, savoir que le baptême soit conféré par immersion, et qu'il soit consécutif à une démarche de foi, donc à une démarche de conversion. Donc nous disons, tout acte religieux, quel qu'il soit, qui ne répond pas à ces deux conditions, ne peut pas être considéré comme un baptême. Donc, le baptême des enfants, qui n'est ni une immersion, ni une démarche de foi de la part du baptisé, n'est pas un baptême. Et par conséquent, nous nous sentons libres, nous évangéliques, de baptiser, ou comme ils disent, de rebaptiser, mais je mets rebaptiser entre guillemets, des gens qui ont été baptisés enfants parce que pour nous, ils n'ont jamais été baptisés. C'est vrai pour les catholiques aussi. Donc nous ne rebaptisons pas, mais nous baptisons des gens qui ne l'ont jamais été. Et c'était aussi le procès qu'on faisait aux anabaptistes. Les anabaptistes ont été brûlés, massacrés, torturés, etc. Parce que justement, ils étaient anabaptistes. Anabaptistes, ça veut dire en grec les rebaptiseurs. Et les anabaptistes ont refusé cette expression, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas des rebaptiseurs, nous sommes des baptiseurs, tout simplement. Et ça, je crois qu'il faut que nous soyons très fermes dans ce domaine-là. Nous ne rebaptisons personne. Nous baptisons des gens qui n'ont jamais été baptisés. Maintenant, deuxième point. Acte 19, nous avons parlé la dernière fois. Les disciples de Jean à Éphèse. Les disciples de Jean, ils avaient déjà été baptisés du baptême de Jean, ils le disent expressément. Et Paul leur pose la question, mais il dit, mais vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit ? Si vous aviez été baptisé du vrai baptême, vous auriez au moins entendu parler du Saint-Esprit, même si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, parce que on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si vous n'avez pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit, c'est donc que vous n'avez pas été baptisé du véritable baptême. Non, du baptême de Jean. Ah oui, Jean disait d'être baptisé dans la foi, celui qui devait venir. Et Paul leur prêche l'Évangile. Et quand ils ont cru, Paul les rebaptise. Vous allez me dire, mais alors, il est en contradiction avec lui-même, il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême quand le baptême est valable, quand le baptême est véritablement un baptême. Mais pourtant, ce n'était pas un baptême, le baptême de Jean. Non, ce n'était pas le véritable baptême des croyants. Parce que le nom de Jésus, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça n'était pas invoqué. Alors, se pose la question suivante, maintenant. Nous avons vu, pour qu'il y ait baptême, il faut qu'il y ait immersion et il faut qu'il y ait foi préalable, conversion. Je préfère le mot conversion que le mot foi. Qu'en est-il, qu'en serait-il de quelqu'un qui viendrait nous dire « Moi, par exemple, je me suis fait baptiser à l'âge de 30 ans, mais je dois dire très honnêtement qu'à cette époque-là, je ne croyais pas. Je me suis fait baptiser parce que j'étais fiancé avec une fille qui était évangélique et comme je voulais me marier avec elle, pour lui faire plaisir, je me suis fait baptiser. Ça arrive. Ça ne devrait pas. Ou pour des raisons de ce type-là. Parce que je voyais mes petits camarades qui se faisaient baptiser, j'étais dans une église évangélique, j'arrivais à 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, je voyais toujours qu'ils se faisaient baptiser. Pour faire comme eux, je me suis fait baptiser, mais je n'étais pas vraiment converti. Mais maintenant, je me suis véritablement converti. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, allez-y. Bien sûr, il faut le baptiser. Aucun doute. Aucun doute. Son premier baptême n'est pas un baptême. Parce que si vous ne faites pas ça, vous revenez au baptême sacramentaire. À ce moment-là, il n'y a aucune raison de dire que le baptême des enfants n'est pas valable. Alors voyez-vous, c'est des choses qui vont vraiment très loin. Alors maintenant, ici, voyons, est-ce qu'on a encore un petit quart d'heure. Qu'est-ce que représente le baptême ? Le baptême représente plusieurs choses. Premièrement, le baptême a à voir, nous l'avons vu, avec la résurrection. L'union avec le Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Romains 6, verset 3, Galates 2, verset 12, Galates 3, verset 27, 1 Corinthiens 10, etc., etc. Romains 6, verset 3 nous dit « C'est un ensevelissement avec le Seigneur et une résurrection avec le Seigneur. » C'est aussi présenté comme un bain de purification par lequel nous revêtons le Seigneur, nous revêtons l'homme nouveau. C'est le passage à une humanité nouvelle, Colossiens 1, verset 13. Donc ici, un acte conscient d'engagement, l'expression extérieure et visible de l'engagement et de l'espérance chrétienne. Enfin, c'est le témoignage et la confession du Seigneur. Et en même temps, la prédication des grandes vérités du salut, la mort et la résurrection, c'est une sorte de drame sacré par lequel est symbolisée, n'est-ce pas, l'union du croyant avec le Seigneur, une expression de la foi, une aide pour la sanctification et un acte d'hommage et d'obéissance. Maintenant, si vous voulez, je voudrais essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là. Finalement, des choses qui sont mal vues, mal connues dans les milieux évangéliques. Reprendre un petit peu ce que nous avons dit la semaine dernière sur le baptême juif et les rites de purification. Nous avons vu qu'au départ, le baptême juif, le baptême qui se pratique dans le mikvé jusqu'à nos jours, les ablutions rituelles, n'est-ce pas, avait à voir avec la purification des impuretés rituelles. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, qu'une impureté rituelle ? C'est quelque chose qui a à voir avec le domaine de l'impureté par excellence. Quel est le domaine impur par excellence pour la Bible ? Qu'est-ce que quelqu'un peut dire ? Qu'est-ce qui rend un être radicalement et définitivement impur ? Oui, mais encore plus loin, la mort. La mort, c'est le domaine de l'impureté. D'où l'interdiction de toucher un cadavre. Celui qui touche un cadavre se rend impur. Celui qui rentre dans un tombeau, dans un cimetière, on n'a pas le droit de construire la cité des vivants, n'est-ce pas, sur l'endroit d'un cimetière. Par exemple, la ville de Tibériade a été construite sur des tombeaux, sur un ancien cimetière, et était considérée comme impure pour les Juifs. La mort. Et finalement, est impureté tout ce qui conduit à la mort. Tout ce qui, si vous voulez, peut d'une manière ou d'une autre conduire à la mort. D'où, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, le péché, car le péché conduit à la mort. Mais aussi, comment dirais-je, les effusions de sang, par exemple. Le sang, c'est la vie. Donc, une effusion de sang, une perte de sang, c'est un germe de mort qui entre dans l'être. Et par conséquent, il y a là un processus qui conduit à la mort qui commence. Et lorsque cette effusion de sang s'est arrêtée, eh bien, il faut enrayer ce processus, si vous voulez, par une purification rituelle qui rétablit, en quelque sorte, celui qui en a été atteint dans la communion avec la source de la vie qui est Dieu. Dieu est le vivant par excellence. Hein? Un guerrier, par exemple, qui revient du combat est impur parce qu'il a versé le sang. Donc, il est souillé. Il doit se purifier. La lèpre, qui est une maladie qui fait de l'individu un mort vivant, en quelque sorte, est une des maladies qui rend impur par excellence. mais effectivement aussi les effusions de sang, et notamment, par exemple, les règles des femmes, qui sont une effusion de sang, et qui entraînent aussi donc l'impureté. Et là, c'est très intéressant parce que dans la vision juive, le mikvé est essentiellement pour la femme, n'est-ce pas, soit après ses règles, soit après un accouchement. Parce que la femme, c'est, dans la vision biblique, c'est Chava, c'est la vie, la vivante, celle qui donne la vie. Et on trouve ça chez Paul. Et si vous voulez, la vocation de la femme, c'est de donner la vie. Et tous les mois, son organisme se prépare à donner la vie. Et précisément, l'effusion de sang qui se manifeste tous les mois est, en fin de compte, le signe que ce processus de donner la vie est interrompu. Il n'aboutit pas à son terme. C'est une sorte de, c'est une sorte d'échec. Et c'est pourquoi, chaque mois, la femme doit se purifier pour à nouveau être prête à sa vocation. Et si vous voulez, dans la vision chrétienne du baptême, il y a un peu aussi cette idée. Le péché est finalement ce qui découle du péché. N'est-ce pas ? Entraîne une impureté du corps, de l'être entier, qui fait que l'être humain est détourné de sa vocation qui est la vie. L'être humain est appelé à la vie. La vie avec Dieu. Et pour que, précisément, cette communion soit rétablie avec Dieu, non seulement dans spirituel, mais également physique, enfin, il faut que, précisément, ce processus de mort dans lequel l'homme est engagé, parce que finalement, l'homme physique, dans son être physique, les médecins savent bien, c'est un être pour la mort. Dès qu'il naît, il va vers la mort. Il y a un processus de mort qui commence en lui. Comme dit l'apôtre Paul, la mort agit en lui. Mais en même temps, il dit, dans la nouvelle naissance, la vie agit en lui. La nouvelle naissance, c'est ça. C'est qu'alors même que notre être extérieur se détruit, dira l'apôtre Paul, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et de la même manière que la naissance physique, et le début de ce processus de mort, la mort agit en moi, le baptême est le point de départ où la vie agit. Et voyez-vous, là c'est très intéressant parce que quand nous disons cela, nous disons le baptême c'est plus qu'un symbole. Et là, je sais qu'un certain nombre de théologiens protestants, baptistes, etc., notamment, objecteraient. Mais je crois que quand on examine les textes, notamment à la lumière de la tradition juive, nous disions tout à l'heure, et finalement les textes bibliques eux-mêmes, hein, parce qu'il y a manifestement une petite dimension sacramentaire quand même dans le texte biblique lui-même. C'est le sceau de la rédemption, vous êtes scellés pour la rédemption. Il y a cette identification dans Romains 6, n'est-ce pas, avec le Christ ressuscité, n'est-ce pas. Donc il y a une espèce de dimension sacramentaire beaucoup plus ténue que ce que disent les catholiques, mais qui existe quand même. Et c'est pourquoi le baptême est important dans le processus du salut. Parce que, si vous voulez, c'est un germe de régénération non seulement de l'âme, mais du corps. Si vous voulez, de la résurrection du corps. Le corps qui est scellé pour la vie éternelle, qui est scellé pour la résurrection ou pour l'enlèvement quand le Seigneur revient. Bien sûr, je ne vais pas aboutir là où aller, par exemple, les Daquets, dire quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas être baptisé, on va le baptiser avec de l'eau, l'aspersion. Non, on peut évidemment être sauvé sans avoir été baptisé. Le brigand sur la croix l'a été, il n'était pas baptisé. Mais si vous voulez, quand on peut le faire, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que là, il y a un processus, si vous voulez. Il y a un processus, ça, de mise à part du corps, de sanctification du corps. Et le corps, c'est pas simplement l'enveloppe physique charnelle, Mais si vous voulez, c'est le corps, comme dira l'apôtre Paul, avec ses passions et ses désirs, qui a été crucifié, mais qui vit maintenant d'une manière nouvelle. On revêt l'homme nouveau, dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, créé à l'image du Christ. Hein? Enrayer, si vous voulez, les germes de mort, la mort spirituelle et de la mort physique qui sont à l'œuvre justement dans le corps à cause du péché qui habite dans le corps. Alors voilà, si vous voulez, en gros, ce que pourrait être cette signification du baptême. Le baptême, dans ce sens-là, est aussi une séparation. Une séparation qui marque un avant et un après, comme la mer Rouge avait marqué pour les Israélites le passage de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Et c'est en cela que commence aussi le processus de sanctification. Sanctification qui est double aussi, là. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier toujours ce double aspect. Sanctification qui dépend de notre volonté, mais qui dépend d'abord et essentiellement de la grâce de Dieu. Et être baptisé, c'est recevoir la grâce de Dieu pour la sanctification, pour la séparation, qui va se manifester de plus en plus avec le péché dans la vie subséquente qui va maintenant commencer. Et puis enfin, dernier point. Dernier point, évidemment, qui est tellement évident que c'est à peine s'il faut le mentionner, c'est que c'est une agrégation au corps. Hein, Éphésiens 4, verset 3, « Nous tous qui avons été baptisés, n'est-ce pas, nous avons été baptisés pour former un seul corps. » Il y a un seul baptême, hein, formant un seul corps. On est plongé dans le corps par le baptême, le corps de Christ, on devient membre du corps de Christ, et qui donc détermine ici la structure de l'Église. Hein. Ce n'est qu'à partir du moment où l'on est baptisé, après avoir été donc né de nouveau, que l'on peut être considéré comme membre de l'Église. C'est pourquoi il ne nous appartient pas, comme je l'ai dit, nous, de régenter l'Église universelle. Nous ne sommes pas les responsables de l'Église universelle, c'est le Seigneur qui l'est. Mais par contre, dans l'Église locale, nous ne pouvons reconnaître comme membre de l'Église locale que ceux qui ont été baptisés après une véritable et authentique conversion. Alors voyez-vous comment ici le baptême est véritablement une pierre de touche essentielle de la foi chrétienne.